France Info.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informés sur France Info, à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. La mémoire en question ce soir avec les débuts des commémorations des 80 ans de la libération. Emmanuel Macron était aujourd'hui sur le plateau des Glières, puis à la maison d'Izieux où 44 enfants furent arrêtés et déportés, notamment à Auschwitz-Birkenau. Autre génocide, celui bien sûr au Rwanda il y a 30 ans, au-delà du travail de mémoire, celui de la réconciliation et de la responsabilité, notamment celle de la France, nous y reviendrons largement. Et puis cela fait 6 mois aujourd'hui que le Hamas a attaqué Israël. La guerre dure depuis et ne semble pas prête de s'arrêter. Nous analyserons ces mois de conflit et toutes les dernières infos, bien sûr, qui le concernent. Pour en parler, Jean-Christophe Ploquin est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de La Croix, Valérie Lecâble, à vos côtés. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Victor.
Éditorialiste politique pour le site lejournal.info. Tam Tranui, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique et parlementaire à Public Sénat. Et puis avec nous, également Guillaume Ancel. Bonsoir Guillaume Ancel.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation, ancien officier français, chroniqueur et auteur du blog Ne pas subir. Vous avez été sur le terrain à l'époque au Rwanda et avez depuis longtemps milité pour que le rôle de la France soit reconnu, notamment avec votre livre Rwanda, la fin du silence. Ce sera tout à l'heure notre deuxième sujet. C'est parti pour une heure de débat. C'est donc un long cycle mémoriel qui a débuté ce dimanche pour Emmanuel Macron autour du 80e anniversaire de la Libération. Il y aura bien sûr le débarquement en Normandie le 6 juin prochain, mais ce dimanche, le chef de l'État s'est rendu sur le plateau des Glières dans les Alpes au lieu de la Résistance, puis à la maison d'Izieux dans le département de l'Ain, là où 44 enfants juifs y furent raflés le 6 avril 44 par la Gestapo sur l'ordre de Klaus Barbie, puis déportés et assassinés dans les camps. Je vous propose d'écouter le président de la République ce matin au plateau des Glières.
Unis dans le même combat face au nazisme, combat pour la liberté, combat universel qui est devenu celui de la France. Voilà cet esprit des Glières, celui qui nous rassemble aujourd'hui, comme il nous rassemblait il y a 5 ans au même endroit, et comme il vous rassemble chaque année ici. Nous qui n'oublions pas et serrons au creux de notre main cet idéal.
Voilà le ton très solennel d'Emmanuel Macron. Cette journée de commémoration, comme tant d'autres avant elle et celles qui suivront, elle est importante. Jean-Christophe Ploquin, pour quelle raison à vos yeux, pour le souvenir comme symbole d'unité aussi de la nation ?
Oui, alors c'est intéressant que le président de la République commence cette séquence mémorielle avec un maquis. Et c'est vrai que quand on pense en général en 1944, on a tous en tête le débarquement de Normandie, on a l'impression que finalement la libération de la France, ça, c'est de ce fait de cette méga offensive alliée en Normandie. Et ce que veut rappeler aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est qu'il y avait aussi cette, et je, tout au long de cette séquence mémorielle qui ira, je crois, jusqu'à la libération de Strasbourg en novembre.
Même en 2025, avec d'autres événements.
C'est ça. Et donc, il y a vraiment le souhait de montrer la diversité des situations françaises, l'action, effectivement, des résistants dans leur diversité, comme on vient de l'entendre dans le passage, puisqu'il a bien rappelé, il y avait des communistes, mais il y avait aussi des représentants du courant démocrate chrétien, il y avait des étrangers, il y avait des Français. Et donc cette diversité qui était la réalité des maquis. Et en même temps, il a souligné aussi dans son intervention, qui était finalement assez brève, hein, je crois une dizaine de minutes, qu'il y avait aussi des Français contre des Français, et que parmi les troupes qui ont attaqué le plateau des Glières, c'était majoritairement des Allemands, mais il y avait aussi la milice française qui était présente. Et donc, sans doute que le président de la République a en tête cette idée de montrer qu'il faut en fait que les Français s'unissent. Il ne faut pas avoir créé des oppositions qui puissent déboucher sur des fractures extrêmement vives dans la nation. Donc il y a à la fois, je crois que les Français aiment l'histoire, et Emmanuel Macron le sait. Et donc toute cette séquence mémorielle, c'était une façon aussi pour les Français de se réapproprier cette histoire. Mais il y a évidemment un message politique aussi derrière.
On va revenir
un souhait d'unité en quelque sorte.
On va revenir dessus. Votre regard sur cette journée, Valérie Lecâble ?
Bah écoutez, Emmanuel Macron adore le mémorial. C'est la deuxième fois qu'il se rendait au plateau des Glières.
Après 2019 avec Nicolas Sarkozy.
Il y avait déjà été il y a 5 ans. Et on voit bien que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle une séquence, hein, dans le langage des politiques et de la communication, etc. Ça a commencé en 2023, comme vous l'avez rappelé, l'entrée de Misak Manouchian, excusez-moi, au Panthéon, Jean Moulin, la résistance, etc. Tout ça, ça a commencé l'année dernière. Là, c'est l'année de la renaissance de notre nation, de notre pays, effectivement, avec les Français qui sont opposés. Il en profite pour... moi, j'ai compris que dans ce qu'il donnait des miliciens, les miliciens, est-ce que c'était d'une certaine façon le Rassemblement national d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'analogie, puisque tout ça va se terminer à 3 jours des élections européennes, avec le combat interne de la démocratie que lui, Emmanuel Macron, représente face au Rassemblement national et à ces nazis qu'il a évoqués, sans faire le lien évidemment, mais on sent bien qu'il y a ça. Il y a aussi la guerre en Ukraine et la guerre contre la Russie. Et puis ça va se poursuivre l'année prochaine par l'année de l'armistice. Mmh. Donc on voit bien qu'il est dans le récit d'une France héroïque, d'une France de héros multiples, effectivement, d'une France de résistance, et qu'il prétend incarner aujourd'hui dans sa modernité face à tous ceux qui les assaillent, que ce soit les ennemis extérieurs représentés par la Russie ou les ennemis de l'intérieur représentés par le Rassemblement national. Donc il ne fait pas de campagne politique européenne directement, mais de façon subliminale carrément.
Ouais, beaucoup de signification dans ce discours. On va continuer d'en parler dans un instant. D'abord, le fil info à 20h10, c'est avec Stéphane Milhomme.
À Grenoble, l'homme suspecté d'être le violeur à la trottinette est placé en détention provisoire, mis en examen pour 2 viols, agressions sexuelles et violences. Ce jeune de 22 ans a été confondu par son ADN. Au total, 7 victimes se sont déjà fait connaître à la justice. La présentation à un juge des 5 suspects du passage à tabac mortel du collégien de Viry-Châtillon, le procureur d'Evry entend demander le placement en détention pour 4 d'entre eux. Selon les premiers éléments, la victime a été agressée par 2 frères pour un différend liés à leur sœur mineure sur des sujets relatifs à la sexualité. Les Alpes et le plateau des Glières pour lancer les célébrations du 80e anniversaire de la libération. Depuis ce lieu de mémoire en Haute-Savoie, le chef de l'État a salué ce foyer ardent de la résistance où 100 de martyrs ont été tués en 44. Déplacement ensuite dans l'Ain pour une commémoration, cette fois à la maison des enfants d'Isieux. 44 petits juifs ont été déportés sur ordre de Klaus Barbie. C'est Mathieu Van Der Poel, tout ému, qui le déclare depuis le Vélodrome, gagner le Tour des Flandres et Paris-Roubaix quelques jours après. C'est un rêve, j'en perds mes mots. Victoire en solitaire et c'est même la 2e année consécutive que ce Néerlandais, petit-fils de Poulidor, remporte l'Enfer du Nord.
France Info.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Et on continue d'évoquer ces hommages aujourd'hui, ces commémorations, hommages aux résistants sur le plateau des Glières et puis à la maison d'Isieux. Effectivement, cet enfant déporté notamment à Auschwitz. Votre regard de militaire, d'ancien officier, Guillaume Ancel, sur cette journée.
C'est d'abord un passage à l'histoire. Parce que la dernière génération qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, c'est celle des années 1920. Et donc, qui évidemment s'éteint. Là, le fait que le président l'évoque, c'est important, mais on sent bien qu'on bascule dans le fait que bientôt, il n'y aura plus aucun témoin de cette période. C'est une histoire sans controverse aussi qu'il évoque. Et je pense que ça l'arrange parce que il a besoin, quelque part, d'exalter aussi la résistance face à l'extrême droite, dont on voit bien qu'elle a un impact extrêmement grave, et notamment sur la guerre en Ukraine, qu'on a évoquée tout à l'heure. Finalement, on croyait s'être débarrassé de cet extrémisme, et il est encore très présent dans nos sociétés, avec des liens qu'on n'avait jamais imaginés. On n'avait jamais imaginé que la Russie allait devenir le porteur d'un idéal radical et d'extrême droite aujourd'hui. Donc c'est intéressant, et en même temps un peu décevant. Parce
pourquoi
que
décevant ?
J'imaginais qu'il serait plutôt aujourd'hui le président, sachant que la rafle d'enfants, c'était plutôt le 6 avril et le 7 avril. Pour moi, c'est d'abord la date aujourd'hui de la commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et je pensais que le président allait plutôt être là, parce qu'il aurait pu faire ses commémorations sur la Résistance, qui est un moment très important, mais à d'autres dates. Donc on voit qu'il y a eu un choix de sa part, je pense qu'on en reparlera.
Ce n'est pas anodin, hein, Tam Trannui, que Emmanuel Macron ne soit pas rendu au Rwanda, justement, mais soit resté en France pour ces commémorations-là.
Je pense
on parlait de politique.
C'est une mémoire qui nous unit, c'est une mémoire effectivement qui est encore relativement consensuelle et qui reflète effectivement le goût d'Emmanuel Macron pour l'histoire, pour l'appétit mémoriel, commémorationnel qu'on a retrouvé.
C'est devenu un spécialiste hein, en quelque sorte de ces commémorations.
On a vu qu'il y a eu 28 hommages nationaux, c'est ce que compte le Monde depuis 2017. Et moi ça m'évoque aussi ce qui s'était passé lorsqu'il avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la Première Guerre mondiale, les commémorations de novembre 2018 sur le chemin des Dames.
Les itinérances mémorielles à l'époque.
Itinérances mémorielles en hommage aux poilus. Et où il y avait eu aussi la tentation de faire à la fois ça et en même temps d'aller dans des zones désindustrialisées. Il y avait la volonté de rappeler voilà, une certaine mémoire de la France comme pour répondre à des questions du présent. Et j'avais trouvé que ça avait pas très bien fonctionné, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais il y avait eu en parallèle la montée des gilets jaunes. Et donc, je pense que l'une des difficultés dans les actes que fait Emmanuel Macron d'histoire, c'est qu'il faut qu'il soit en cohérence avec le présent. Et par exemple, ce qu'il y a eu aussi avec l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, c'est que c'est rentré en même temps que le débat sur le projet de loi immigration. Ça tirait des deux côtés, c'était en même temps, hein, en même temps qu'il...
Là, il peut le décorréler de l'actualité facilement, plus facilement.
Eh bien, là, je le pense quand même que c'est moins difficile, mais je dis quand même qu'il faut faire attention et pour que ce soit réellement audible. Il faut que tout aille dans le même sens. On est dans un moment, bon là, on le voit, de grandes
désunions. Parce que ça lui permet aussi quelque part de faire une pause dans l'actualité chaude, on va dire, bah, en faisant un moment un peu suspendu.
Oui, voilà. Au moins, c'est pas un moment où on va lui parler de la réforme de l'assurance chômage, si c'est ça que vous voulez parler. C'est sûr.
Ça, Gabriel Attal.
Voilà. On va laisser ces dossiers-là, effectivement, au Premier ministre et lui se mettre à un autre niveau, prendre de la hauteur. C'est ça qu'il souhaite dans cette séquence.
Emmanuel Macron qui a terminé son discours au plateau des Glières, je le cite par ces mots, « Vivre libre ou mourir, telle est notre viatique pour hier, aujourd'hui et demain, pour que vive la République et que vive la France. » Jean-Christophe Ploquin, très difficile de ne pas voir une allusion à ce qui se passe aujourd'hui aux portes de l'Europe en Ukraine.
Oui, c'est ça. Il y a clairement un message, comme disait Guillaume Ancel, lié au conflit ukrainien. Et bon, on voit que Emmanuel Macron, aujourd'hui, veut apparaître comme l'un des plus fervents soutiens à l'Ukraine et l'un des leaders, en quelque sorte, européens du soutien à l'Ukraine. Donc, ça s'inscrit aussi dans ce cadre. Ce que je voulais juste noter aussi, c'est que la mémoire des maquis sont des mémoires qui sont très enracinées localement. Et même si il y avait quand même une centaine d'enfants et de jeunes qui étaient réunis au plateau des Glières, et je pense que ce sont des événements, finalement, à la venue d'un président de la République aussi. C'est très important par rapport aux populations locales qui portent ces mémoires. Et donc là aussi, c'est de la politique.
On l'a vu d'ailleurs serrer beaucoup de mains, voilà. Une sorte de bain de foule.
Et là aussi, c'est de la politique. Et finalement, de ce point de vue-là, ça a été plutôt une journée plutôt positive pour lui en termes d'image et de contact avec la population.
Avec cette question, Valérie Le Cable, on l'a dit aussi, hein, de la transmission aux futures générations, bien sûr.
Oui, tout à fait, puisqu'il a demandé aussi à la population de collecter les films, de donner les photos, les images. Il a parlé du sommet de la francophonie, de Notre-Dame, etc. Et tout ça donne une espèce de France qui reprend fierté. Il a beaucoup parlé de fierté. Il a dit « Nous sommes fiers de nos valeurs, fiers de notre histoire, aux côtés de nos alliés, etc. » Et ça me fait quand même penser que depuis 2017, son plus ancien conseiller, quasiment un des rares qui est là depuis le début, s'appelle Bruno Roger Petit, son discours mémoire et histoire, etc. Et qu'il a, il a pensé tout ça depuis le début avec Jupiter, avec cette espèce de monarque subliminal qu'on doit avoir en France au-dessus, après le président normal qui était François Hollande, avoir un président, au contraire, qui soit au-dessus de la mêlée et qui montre la voie. Et aujourd'hui, j'ai trouvé c'était plutôt réussi dans cette veine-là. Effectivement, il n'y a pas eu de gilets jaunes, il n'y a pas eu de perturbation, il n'y a pas eu de loi sur l'immigration, il n'y a rien eu de particulier. Et ça redonne un petit peu de vision de la France, voilà. Et de temps en temps, je trouve que ça fait pas de mal. Il y a effectivement un appel au peuple autour de ça. J'ai trouvé ça légèrement inquiétant quand il a parlé. Ça faisait un peu penser aux troupes, là, quand il a dit « nos enfants peuvent se mobiliser », etc. J'ai trouvé ça un petit peu inquiétant. On n'était pas dans une... dans une mobilisation où on allait chercher les gens et tout, mais on était dans un état d'esprit quand même qui pouvait laisser penser qu'un jour, les jeunes d'aujourd'hui se trouveraient dans la même situation que les jeunes d'hier. Et bien évidemment, je pense que personne en France ne souhaite cette situation-là.
Ça me fait ennui, on a à la fois un président qui prend de la hauteur, mais qui n'hésite pas aussi à être, on va dire, au plus proche, en tout cas rentrer dans les dossiers, à s'impliquer directement.
Vous trouvez ?
Bah, un peu, non ?
Oui, mais non, mais oui, c'est vrai qu'on l'a vu, par exemple, sur l'éducation nationale, qui se sent obligé de dire vendredi des choses qui auraient dû être dans la bouche de sa ministre de l'éducation nationale sur la formation des enseignants. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, il y a quand même un fil, on parle beaucoup de l'influence de Bruno Roger Petit, qui serait très, très forte en ce moment, etc., ce conseiller mémoire, dont l'influence va bien au-delà de ces missions-là. Et beaucoup ont vu son marqueur, et le lien, c'est que sur les questions d'éducation nationale, sur tout ce qu'a pu dire Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse de janvier, sur le retour de l'uniforme, etc., ça aussi, beaucoup y voient le marqueur de Bruno Roger Petit. Donc finalement, il y a peut-être un lien entre tout ça. Le lien aussi, quand on s'adresse à ces jeunes générations, c'est quand même de pas oublier, c'est quand même une mission absolument essentielle. Aujourd'hui, quand on voit que la mémoire de la Shoah, c'est quelque chose qui est plus difficile à enseigner aujourd'hui dans les écoles, moins bien entendu, moins bien compris. C'est quand même toujours important qu'un président de la République régulièrement fasse, j'allais dire, des piqûres de rappel. Enfin, c'est absolument essentiel.
Et après la Shoah, on va parler du Rwanda dans un instant. D'abord le fil info, 20h20, Stéphane Milhomme.
La Tour Eiffel illuminée cette nuit aux couleurs du Rwanda, décision de la municipalité pour commémorer les 30 ans du génocide des Tutsis, message visible dès 20h30 et jusqu'à minuit. 6 mois maintenant après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre, plus d'un millier de personnes manifestaient à Paris aujourd'hui pour la libération des otages israéliens détenus à Gaza. Ils étaient rassemblés au Trocadéro à l'appel du Conseil représentatif des institutions juives de France. Au moins 70 kilos de cannabis découverts chez la maire d'Avallon dans l'Yonne, de la cocaïne également, un lingot d'or et de l'argent liquide retrouvés par les enquêteurs. Les frères de Jamila Absaoui sont également entendus par la police, soupçonnés de s'être servi du domicile de l'élu pour stocker la marchandise. L'enquête doit dire si elle était au courant, une saisie dans le cadre de l'opération PlaceNet XXL. La Russie affirme avoir détruit 15 drones irakiens et ukrainiens au-dessus de la frontière. Volodymyr Zelensky, lui, implore toujours les élus américains. Il assure que si le Congrès ne débloque pas ses 60 milliards de dollars, l'Ukraine perdra la guerre et il en va de sa survie. Et puis le Stade toulousain, qualifié à son tour pour les quarts de finale de la Champions Cup de rugby, victoire 31-7 après ce derby franco-français face au Racing 92. Montpellier n'ira pas en quart de finale. Qualification des Irlandais de l'Ulster 40-17.
France Info.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Et on en vient aux 30 ans du génocide Rwanda. L'heure est là aussi à l'unité, mais aussi à la réconciliation. En 1994, en seulement 100 jours, plus de 800 000 personnes, en très majorité Tutsi, étaient assassinées par des Hutus. 30 ans après, des cérémonies et encore beaucoup de questions, notamment quant au rôle de la France, questionnée depuis longtemps. On va y revenir. En 2021, Emmanuel Macron, depuis Kigali, disait être venu reconnaître les responsabilités de la France dans ces massacres. Emmanuel Macron, qui dans une vidéo publiée ce matin, a tenu à assumer ses propos.
Sur ce génocide, ce moment si important, cruel, de votre histoire, oserais-je dire de notre histoire, je crois avoir tout dit le 27 mai 2021, quand j'étais parmi vous. Je n'ai aucun mot à ajouter, aucun mot à retrancher de ce que je vous ai dit ce jour-là. La France assume tout et exactement cela dans les termes que j'ai employés. Et je remercie encore le président Kagame pour la manière qu'il a eue de les accueillir et ce faisant d'ouvrir une nouvelle page ensemble.
Emmanuel Macron, qui un peu plus tôt dans la semaine avait dit via l'Élysée que la France aurait pu arrêter le génocide, mais n'en a pas eu la volonté. Or, on apprend ce soir que ces propos, eh bien, n'ont jamais existé, mal compris par une conseillère de l'Élysée, un quiproquo plutôt qu'un rétropédalage, dit d'ailleurs l'Élysée. Ce qui veut dire, Guillaume Ancel, vous avez été militaire, vous étiez au Rwanda, officier à ce moment-là. Cela fait des années, on l'a dit, que vous militez pour que la vérité éclate sur le rôle de la France. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que l'on pense depuis quelques jours, la France, finalement, n'a pas fait ce fameux pas de plus.
Et non, malheureusement, parce que la commission Duclerc, donc présidée par un historien, 12 historiens,
Duclerc, c'est en 2021,
qui ont travaillé pendant 2 ans sur les archives disponibles, parce qu'ils n'ont jamais accédé à certaines archives, soit qu'elles avaient disparu, comme celle de Jean-Christophe Mitterrand, soit qu'elles ont été totalement verrouillées, comme celle de l'armée. Eh bien, cette commission a permis de conclure que le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda a été, je cite leurs mots, un désastre français. Et que la responsabilité de l'Élysée est lourde et accablante. La marche qui manquait aujourd'hui, à mon avis, c'était une fois qu'on a dit qu'il y a une responsabilité accablante, qui est responsable? Et c'est là où, quand l'Élysée, parce que là c'est l'Élysée, bien sûr, de Macron qui a 3 jours avait dit nous aurions pu empêcher ce génocide, ce que nous avons tous pensé. Bien sûr que nous aurions dû intervenir pour empêcher ce génocide, qui était très fort. On pensait qu'on allait enfin interroger un homme clé de cette affaire, c'est évidemment Hubert Védrine, qui était secrétaire général de l'Élysée à l'époque, pour savoir quels ont été les rôles joués par l'Élysée. Parce que ça n'a pas été éclairé par la commission Duclerc. Je rappelle que Vincent Duclerc l'a dit quand il a présenté les conclusions de sa commission. Il n'appartenait pas aux historiens de déterminer la responsabilité, notamment la responsabilité pénale des uns ou des autres. Or, quand on est sur un génocide, le fait que, piloté par l'Élysée, la France ait protégé la fuite des génocidaires et surtout a livré des armes, j'ai vu une livraison d'armes aux génocidaires, ça peut être constitutif de complicité d'un crime contre l'humanité.
Guillaume Ancel, à l'époque, à quel moment est-ce qu'il est clair pour vous que la France n'agit pas comme il le faut, dès le début?
Dès le moment où, alors qu'on nous a annoncé qu'on était dans une opération humanitaire, je reçois l'ordre de guider des frappes aériennes pour remettre au pouvoir le gouvernement qui est juste en train de mener le génocide. Et c'est difficile de ne pas le savoir parce qu'il s'en vante. Le gouvernement intérimaire rwandais, qui en fait a pris la place après un coup d'État, eh bien, en tuant d'ailleurs le président Habyarimana, se vante d'essayer d'écraser, de détruire les Tutsis. Je rentre du Cambodge, j'ai été élevé dans la culture du Shoah, c'est quand même compliqué d'être myope à ce point.
C'était, on a dit sur le rôle de la France, c'était sous François Mitterrand, Valérie Le Câble. Ensuite, aucun autre président avant Emmanuel Macron n'a fait ce fameux pas sur la responsabilité pour assumer. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre autant?
Écoutez, Guillaume Ancel, je comprends votre émotion, vous étiez sur place et certainement vous avez vécu des choses terribles, mais je pense que, moi j'ai l'impression que la situation est un peu plus complexe que celle que vous décrivez. D'abord, je pense que la France a mis énormément de temps à comprendre, d'ailleurs ça a été très très vite, hein, ça a duré que 3 mois, a mis du temps, alors je sais pas combien de temps, à comprendre qu'on allait vraiment vers un génocide. Pourquoi ? Parce que ça faisait des années qu'on disait « il y a un génocide, il y a un génocide, un génocide se prépare ». Donc, les Hutus étaient au pouvoir. C'est vrai que la France soutenait les Hutus. Voilà, c'était historique, c'était comme ça. Et je ne sais pas, c'est difficile. Quand on est secrétaire général de l'Élysée, le rôle n'est pas de décider des guerres. Vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça. C'est le CEMP, le conseil particulier défense le militaire qui est auprès du président de la République, qui doit l'accompagner dans sa décision, qui est sa décision à lui, personnellement. Quand François Hollande est allé au Mali, c'est lui, François Hollande, chef des armées, qui a dit on va aller au Mali, on va aller défendre Bamako.
Sans qu'il y ait de décision, on peut imaginer qu'il soit au courant.
Mais le secrétaire général de l'Élysée peut être au courant, il n'est pas décisionnaire dans la chaîne de défense. Moi, j'ai travaillé 3 ans au ministère de la Défense, le ministre de la Défense travaille en collaboration, bien évidemment, avec l'Élysée, qui est le chef des armées, mais le rôle du secrétaire général de l'Élysée n'est pas le rôle principal. Mais ça, bon, ce sont les militaires qui décident en lien avec le chef des armées, Guillaume qui Marseille. Est le président de la République. Non, Valérie, mais je voudrais juste une seconde pour terminer. Vous étiez dans cette opération turquoise qui a été présentée comme une opération humanitaire. Donc vous contestez que c'était une opération humanitaire. Moi, j'y étais pas, donc j'ai pas de raison de mettre en doute ce que vous dites. Mais on ne peut pas dire que c'était une opération de soutien ou tout, parce que c'est votre avis, mais c'est pas l'avis général qui a été. Non, mais je vous vois sourire parce que vous avez vécu des choses et je le respecte et je le comprends parfaitement. Mais il faut expliquer une situation un peu plus complexe.
Je voudrais qu'on ait la réponse de Guillaume Ancel parce que ça, on va marquer une pause dans un instant.
Oui, pardon. D'abord, on n'a jamais accusé le secrétaire général d'avoir pris les décisions. Moi, ce qui m'intéresse chez Hubert Védrine, c'est qu'il explique ce qui s'est passé. Alors qu'on se souvient qu'à l'Élysée, à cette époque, on est en 1994.
À 2 ans de la mort de François Mitterrand. Et en pleine cohabitation.
François Mitterrand est agonisant. Et donc, c'est son entourage qui dirige. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est ça que j'aimerais bien qu'Hubert Védrine explique, c'est qui a pris les décisions. Attention, ce ne sont pas les militaires qui prennent des décisions de ce type.
Ils conseillent le président de la République.
Ils conseillent le président de la République
sur les opérations militaires.
De décision. Or, moi, ce que j'ai vu là-bas, au Rwanda, c'est que les opérations sur les collines de Bicécéro, sur la livraison d'armes, ce qui est le plus grave, parce que livrer des armes à des génocidaires, c'est encore une fois pénalement très grave. Mes camarades étaient furieux, mais tout ça était piloté par l'Élysée. Par contre, je ne sais pas qui pilotait à l'Élysée. Les ordres étaient donnés oralement.
Valérie Lecâble, on va reprendre la discussion dans un instant. On va marquer une pause. La météo et l'info et les informés reviennent après. On va continuer, bien sûr, à parler du rôle de la France au Rwanda. Tout de suite.
France Info Météo. Avec Malongo, ses cafés bio, équitables, ses doses en papier naturel, sa machine expresso fabriquée en France. Sur malongo.com, c'est la liberté d'expresso.
Le temps, Sophie Briat.
Pour demain, la journée est souvent nuageuse sur une grande partie du pays. Ce ciel couvert est porteur d'averses, parfois orageuses, des pays de la Loire au nord Pas-de-Calais et de la pointe Finistère jusqu'au bassin parisien. Le ciel est un peu plus lumineux des Ardennes jusqu'aux Pyrénées avec des averses localement orageuses, surtout entre le Limousin et le Périgord. Et de l'Alsace à la Méditerranée, les nuages laissent passer de très belles éclaircies. Dans l'après-midi, les averses sont plus présentes sur le quart sud-ouest et la couverture nuageuse devient plus compacte du Grand Est à la région PACA. Et des orages pourront se déclencher sur le centre du pays, tandis qu'une onde pluvieuse s'installe de la Normandie vers la Bretagne et le Poitou-Charentes. Les températures matinales sont comprises demain entre 8 et 16 degrés. Et dans l'après-midi, il fera de 14 à 25 sur la moitié nord et de 18 à 26 degrés sur le reste du pays.
Sophie Briat, il est 20h30 sur France Info. L'info, Thomas Giraudeau.
À Grenoble, le suspect interpellé vendredi est placé en détention provisoire, mis en examen pour deux viols, une tentative de viol, une tentative d'agression sexuelle et deux faits de violence. Il est suspecté d'être le violeur à la trottinette, cet homme qui a agi en février et mars à Grenoble et dans sa région. Il suivait ses victimes sur sa trottinette avant de s'en prendre à elle. Le parquet d'Evry a requis le placement en détention provisoire de 4 des 5 jeunes en garde à vue ce week-end. Ils sont poursuivis pour avoir roué de coups Chemseddine, ce collégien de Viry Châtillon en Essonne, mort le lendemain des faits, vendredi, à l'hôpital. Parmi les mises en cause, deux frères d'une jeune fille. Celle-ci aurait, selon le parquet, échangé des messages liés à la sexualité avec Chemseddine. Au cri de libérer les otages, des milliers d'Israéliens ont encore manifesté ce soir devant le Parlement à Jérusalem, 6 mois jour pour jour après le début de la guerre avec le Hamas. 129 personnes sont encore retenues par le mouvement islamiste palestinien. Hamas et Israël envoient une délégation au Caire pour parler ce soir en vue d'une nouvelle trêve. Et l'armée israélienne se prépare à ouvrir un nouveau front au Liban. Dans un communiqué, elle indique avoir achevé une nouvelle phase de préparation à la guerre avec le Hezbollah, allié du Hamas. La communauté internationale nous a laissé tomber. Les reproches de Paul Kagame, le président rwandais, 30 ans après le génocide des Tutsis par les Hutus. 800 000 personnes ont été massacrées à l'époque, sans que la France notamment n'intervienne. L'Élysée rectifie ce soir, contrairement aux informations divulguées en milieu de semaine. Emmanuel Macron n'a pas déclaré que la France aurait pu arrêter ce génocide, mais n'en a pas eu la volonté. En revanche, le chef de l'État a précisé aujourd'hui que oui, la France reconnaît sa part de responsabilité dans les massacres. Le chef de l'État a entamé les commémorations des 80 ans de la libération, se rendant près du plateau des Glières en Haute-Savoie, au lieu de la résistance, puis à Izieux dans l'Ain cet après-midi, d'où 44 enfants juifs ont été déportés et exterminés à Auschwitz-Birkenau. À Marseille, la CGT Éboueurs va déposer un préavis de grève illimité à partir de ce lundi, minuit. Le ramassage des ordures pourrait être très perturbé dans la deuxième ville de France. Le syndicat réclame une meilleure reconnaissance de leur pénibilité au travail. Comme la semaine dernière sur le Tour des Flandres, Mathieu Van Der Poel a écœuré la concurrence. Le champion du monde en titre a remporté en solitaire l'Enfer du Nord Paris-Roubaix pour la deuxième année consécutive, après s'être envolé dans un secteur pavé à 60 km de l'arrivée.
Ouais, c'était vraiment spécial quand même. Je pense que l'équipe a fait un énorme travail aujourd'hui. Et là, on était dans un groupe environ 20 coureurs, je pense, et il n'y avait pas vraiment une bonne collaboration, donc j'avais dit que j'allais essayer d'attaquer déjà une première fois. Et immédiatement j'avais un beau écart et c'est pour ça que j'ai continué. Ce n'était pas une attaque pour aller seul déjà jusqu'à l'arrivée, mais ouais, j'avais vraiment des jambes incroyables aujourd'hui. Et il y avait aussi le vent dans le dos pour aller jusqu'à l'arrivée, donc j'ai juste roulé si fort que je pouvais pour rentrer.
Le vainqueur de Paris-Roubaix, le néerlandais Mathieu Van Der Poel. Et puis eux aussi ont largement dominé leurs adversaires. Les Toulousains se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Champions Cup de rugby en disposant du Racing 92, victoire 31-7. Le week-end prochain, ils affronteront les Anglais d'Exeter à domicile. L'Union Bordeaux-Bègles recevra les Harlequins et les Rochelais iront défier les Irlandais du Leinster. 20h33, on retrouve Victor Maté et ses informés.
20h, 21h, les informés. Victor Maté.
Avec toujours dans le studio de France Info, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef au journal La Croix, Valérie Lecable, éditorialiste politique pour le site lejournal.info, Tam Tranui, journaliste politique et parlementaire à Public Sénat, et Guillaume Ancel, ancien officier français. Son blog Ne pas subir et ce livre Rwanda, La fin du silence. On va continuer justement à parler de ces 30 ans du génocide au Rwanda. On parlait de la responsabilité de la France. Jean-Christophe Ploquin, la prochaine étape, c'est quoi? Ça peut être des excuses pour la France? Ça pourrait arriver
en tout cas,
un jour.
Là, le président de la République s'est arrêté devant. Hein. Il est pas allé jusque-là. Effectivement, c'est quand même assez notable que il est simplement... Je trouve que sa communication est très bizarre. Hein. Je veux juste te rappeler, voilà, ce que j'ai dit en 2021. Bah, voilà, ça n'a pas changé.
Avec cette phrase, hein, on le rappelle, qui était sortie cette semaine, pourtant, sur la France aurait pu arrêter le
voilà, donc, mais elle n'a pas fait. C'est vrai que visiblement, ça a été un quiproquo, une erreur de communication. Moi, je pense que lorsqu'en 2021, Emmanuel Macron avait parlé des responsabilités très importantes de la France. Il avait parlé de responsabilités politiques et effectivement, on peut dire que la France avait été responsable en quelque sorte d'un soutien bien avant le génocide, d'un soutien à un pouvoir dans lequel il y a eu petit à petit le développement vraiment d'une idéologie et d'un noyau dur génocidaire, donc des gens qui étaient Hutus et qui appartenaient à un clan et qui étaient vraiment déterminé à conserver le pouvoir en éradiquant les Tutsis et en supprimant aussi leurs rivaux Hutus. Donc ça, la France a soutenu ce régime et en même temps, elle a aussi essayé d'organiser des accords de paix, d'organiser des accords de partage du pouvoir entre des éléments de ce régime et le FPR de Paul Kagame, qui était à l'époque une force armée qui arrivait de l'Ouganda et qui attaquait et qui voulait renverser le régime en place. Donc la France a été un petit peu dans cette position à la fois de soutien à un régime, en même temps, et c'est pour le coup ce qu'explique Hubert Védrine, en même temps d'essayer d'organiser une sorte de transition et une sortie de crise, je dirais, par le haut en organisant la cohabitation, finalement, entre deux clans et deux forces qui s'opposaient. Voilà, donc là, et en même temps, elle a retiré à un moment les soldats qu'elle avait déployés, ce qu'on a appelé l'opération Norrois, et qui ont été retirés du Rwanda un an avant le génocide. Donc, que la France... Enfin, voilà, je pense pas qu'on puisse dire la France est co-responsable du génocide. Ça me paraît... très très difficile de soutenir ça. Ensuite, il y a pendant le génocide effectivement, et c'est là où Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, nous éclaire quand il y a 3 ans, il dit oui. Et d'ailleurs, ça a été le premier responsable dans le monde entier à utiliser le terme de génocide, à dire il y a un génocide au Rwanda. Simplement, il n'a pas su quoi en faire et la France n'a pas su comment réagir par rapport à ça. Et sachant que effectivement les États-Unis, l'ONU, tout le monde a baissé pavillon, tout le monde a abandonné vraiment le Rwanda au moment où le génocide se déroulait. Et ensuite, peut-être le dernier point où on peut s'interroger sur la responsabilité de la France, c'est là où moi j'entends évidemment avec beaucoup d'intérêt ce que dit Guillaume Ancel, c'est voilà, est-ce qu'il y a eu effectivement de la part de toute ou partie de l'appareil d'État français presque jusqu'au bout, alors que le génocide était en cours, des formes de soutien à ce régime génocidaire. Et voilà, c'est là où il y a des témoignages visuels, peut-être, mais c'est beaucoup plus compliqué à établir.
Je redonnerai la parole à Guillaume Ancel, Tam Tranui d'abord.
Oui, je voulais dire que sur les excuses, je pense qu'on en est loin, parce que s'il ne change rien à sa position de 2021, à l'époque, Emmanuel Macron a reconnu une responsabilité, mais pas de complicité. Il n'a pas voulu présenter d'excuses, même s'il a demandé pardon aux Rwandais. Ça peut paraître assez paradoxal, mais c'était ça sa position. Donc je pense que c'est la position sur laquelle il demeure aujourd'hui. On peut quand même reconnaître à Emmanuel Macron l'effort d'essayer de réconcilier des mémoires très difficiles dans cette séquence. C'est quelque chose qu'il a tenté de faire avec ses demandes de rapport à de nombreux historiens. C'est ce qu'il avait tenté de faire avec l'Algérie, le rapport Stora. C'est ce qu'il tente de faire avec le rapport Duclerc. C'est ce qu'il a tenté de faire avec le rapport qu'il avait commandé sur la colonisation du Cameroun. Donc, il y a quand même quelque chose qu'on peut lui reconnaître. Je veux dire, au-delà du rétropédalage par rapport à mercredi, si on essaye d'un petit peu élargir la focale et dire que c'est quand même le premier président français qui reconnaît cette responsabilité française au Rwanda, et c'est quand même important de le dire. Le rapport Duclerc, il avait surtout parlé de la responsabilité française dans l'aveuglement qu'il y avait eu dans le soutien de François Mitterrand à un régime qui était raciste, violent, corrompu et qui s'est avéré génocidaire. Moi, je voulais dire une autre chose, c'est que sur le Rwanda, ce qu'on observe, c'est quand même les doubles méfaits et de l'influence française, qui s'était quand même vraiment trompée de camp, et auparavant aussi de l'influence de la colonisation belge, parce qu'il faut quand même le rappeler, la colonisation belge avait reconnu, classé les ethnies en reconnaissant les Tutsis comme une ethnie plus évoluée que les Hutus fait pour obéir, et c'est donc aussi par ce fait-là qu'au moment de l'indépendance, il y a eu une forme d'inversion des rôles, et c'est quand même des fractures qui ont été entretenues par la colonisation et qu'il faut aussi noter aujourd'hui.
Guillaume Ancel, vous voulez rajouter quelque
chose? Oui, le Vincent Duclerc, dans son dernier livre, qui en plus a exploité des archives en plus de la commission, est extrêmement intéressant sur le sujet. Bien évidemment, il est établi aujourd'hui par les historiens qu'il n'y a jamais eu de participation de la France au génocide. La question n'est absolument pas là. Par contre, le problème dont on parle aujourd'hui, il est franco-français. C'est-à-dire qu'il ne concerne pas les Rwandais. C'est quel rôle nous avons joué. La question, c'est que les livraisons d'armes, qui à mon avis le fait le plus répréhensible, parce que c'est un fait objectif, de livrer des armes à des gens qui commettent un génocide, c'est absolument inacceptable. Le problème, c'est que les livraisons d'armes, bien sûr, elles ont eu lieu avant le génocide, on ne pouvait pas savoir. Pendant le génocide, c'est inacceptable, mais on peut plaider l'aveuglement. Ce qui est grave, c'est que moi, j'ai assisté à une livraison d'armes après la fin du génocide. Et là, on sait tout, puisqu'on a même escorté, ou plutôt on a reçu l'ordre d'escorter les membres du gouvernement qui ont organisé le génocide et que mes camarades croyaient devoir arrêter. Quand ils sont arrivés à Siangougou, la base où il y avait la Légion étrangère, on était persuadés qu'enfin on allait arrêter. Il faut quand même imaginer qu'on avait en face de nous Goebbels, Himmler, qui étaient là, qui se vantaient d'avoir massacré les nazis. Et on a reçu l'ordre de les escorter pour qu'ils puissent aller s'installer dans un camp de réfugiés de l'autre côté de la frontière. Depuis 30 ans, il y a une guerre qui ensanglante l'est du Kivu parce qu'on a laissé les génocidaires s'installer là et que maintenant les Rwandais les poursuivent avec une hargne extraordinaire. C'est
la grande absente de ces commémorations d'ailleurs.
Clairement.
La RD Congo, oui.
Ouais. Un dernier mot, Valérie Lecâble, sur le sujet.
Mais je trouve que la situation a été extrêmement bien décrite globalement. Moi, ce que je constate deux choses. Je pense que le mot de responsabilité et complicité n'est pas le même. J'entends effectivement qu'il n'y a pas eu de volonté ou d'intention formelle. Après, on sait aussi que la réalité du terrain et la réalité des politiques n'est pas la même. Le temps n'est pas le même. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu des choses de vos yeux vus qui n'avaient pas été totalement intégrées d'un point de vue politique pour les raisons que vous avez données aussi, qui étaient la faiblesse aussi de François Mitterrand en fin de règne, etc. Ouais. Peut-être, j'en sais rien, ce sont des hypothèses. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que dans la situation dans laquelle aujourd'hui, on est assez équilibré finalement par rapport à tout ça. Et c'est vrai que l'intervention d'Alain Juppé, qui quand même était ministre des Affaires étrangères, il ne faut pas l'oublier, donc ça compte aussi. D'ailleurs, personne n'a parlé du ministre de la Défense de l'époque, mais qui était le principal concerné dans l'histoire quand même, qui était votre chef également.
Léotard.
François Léotard, voilà.
Non, mon chef, c'était le président de la République.
Mais le sous-chef du chef président de la République, c'est le ministre de la Défense, quand même.
Pas du tout. Pas
le chef des armées, c'est le président
de la République. Le ministre de la Défense n'a aucune capacité, pardon, il n'a aucune compétence dans la conduite des opérations.
Non, mais vous plaisantez ou quoi?
Non.
Le chef d'état-major des armées, qui était sous les ordres du ministre de la Défense, n'a aucune compétence?
Aucune.
Non, mais écoutez, j'étais porte-parole du ministère.
Peut-être, moi j'étais officier et je peux vous assurer.
On vous laissera trancher le
chef des armées.
Le chef des armées, c'est in fine le président de la République, mais il y a un ministre.
Juste rajouter un tout dernier mot.
Un mot très court, mais là je vais parler d'histoire. En fait, oui, on aurait pu empêcher le génocide. C'est d'autant plus grave qu'au moment où on intervenait, il y avait les 50e commémorations d'Ouradour sur Glane et que le président Mitterrand déclamait plus jamais ça. J'aurais aimé que l'Élysée ne signe pas l'ordre de livrer des armes à des génocidaires en même temps.
Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir dans les informés sur ces 30 ans du génocide. Au Rwanda, 20h42, le fil info avec vous Stéphane Milhomme.
À Grenoble, le violeur à la trottinette dort ce soir en prison, mis en examen pour viol et tentative d'agression sexuelle. Au moins 7 victimes se sont déjà fait connaître à la justice. Ce jeune de 22 ans a été confondu par son ADN après l'un des viols. Après 2 journées en garde à vue, les 5 suspects de Viry-Châtillon sont ce soir devant un juge. Le parquet d'Evry entend demander l'incarcération de l'un d'eux. La victime de 15 ans, battue à mort devant son collège, semble avoir été tabassée pour un différents liés à la sœur de l'un d'entre eux, des suspects âgés de 15 à 20 ans. Le ministre israélien de la Défense assure que l'armée se prépare à une opération à Rafah dans la bande de Gaza et après 6 mois de conflit face au Hamas, une seconde annonce en quelques heures après avoir déjà assuré que les soldats israéliens quittaient le secteur de Ran Younes dans le sud du territoire palestinien. Et puis Ocean Viking a secouru aujourd'hui encore 55 candidats à l'exil, dont 4 mineurs. Ça s'est passé au large de la Libye. Les membres du navire ambulance affrété par SOS Méditerranée les ont débarqués au port italien de Livroun. Décision des autorités. Encore plusieurs jours de mer, regrettent les humanitaires, alors que des migrants sont exténués. Pour la 2e année consécutive, le cycliste néerlandais Mathieu Van Der Poel remporte le Paris-Roubaix quelques jours après déjà s'être imposé dans le Tour des Flandres.
France Info.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Nous parlions il y a un instant du génocide au Rwanda. Ce sont aussi aujourd'hui les 6 mois du début de la guerre entre Israël et le Hamas. Après l'attaque terroriste, bien sûr, du 7 octobre, nous verrons si la date a été choisie expressément ou pas. Mais ce dimanche, l'armée israélienne a annoncé se retirer d'une partie de la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est exprimé. Pour lui, Israël est à un pas de la victoire.
Je l'ai dit clairement à la communauté internationale, il n'y aura pas de cessez-le-feu sans le retour des otages. Cela n'arrivera pas, telle est la politique du gouvernement israélien. Nous avons détruit des usines de fabrication de roquettes, des salles de contrôle, des armes, des munitions, et nous continuons à détruire systématiquement ce qui se trouve sous terre. Nous sommes à un pas de la victoire.
Voilà cette déclaration de Benjamin Netanyahou, Jean-Christophe Ploquin, sur une victoire qui serait toute proche pour Israël. Comment est-ce que vous l'interprétez ?
Alors, l'objectif officiel fixé par Benjamin Netanyahou, c'est l'éradication du Hamas.
Et la libération de tous les otages.
Et la libération de tous les
double
otages.
Objectif.
Je pense que c'est d'abord l'éradication du Hamas. Je crois que les autorités israéliennes ont communiqué aujourd'hui qu'ils avaient détruit 19 bataillons sur 24 ou 25 du Hamas. Donc ça veut dire qu'il en reste un certain nombre qui sont sans doute très affaiblis mais encore actifs. Et donc, et qui probablement se trouve du côté de Rafah.
En précisant d'ailleurs, effectivement, que tout en annonçant se retirer d'une partie de la bande de Gaza, l'armée dit aussi, par la voix du ministre de la Défense ce soir, que l'armée se prépare à une opération terrestre à Rafah.
Donc, apparemment, aujourd'hui, Israël a à la fois annoncé le retrait de certaines unités et en même temps a annoncé, comme vous le disiez, la poursuite d'une offensive prochainement sur Rafah. Donc, on est dans un entre-deux, très vraisemblablement. Ce qui était intéressant dans l'extrait que vous avez passé, c'est Benjamin Netanyahou s'adresse à la communauté internationale. Et en fait, la communauté internationale, évidemment, pour lui, c'est d'abord les États-Unis. Donc, il essaye de montrer, de prouver, de convaincre les États-Unis qu'en fait, il n'en a plus pour très longtemps. Et il leur demande d'être encore un peu patient et de continuer à l'aider, puisque les États-Unis sont dans une situation très ambivalente. D'un côté, militairement, ils aident Israël, et Israël, ça fait longtemps qu'Israël aurait arrêté cette guerre si jamais elle n'avait pas eu un soutien militaire puissant, permanent des États-Unis. Il n'y aurait plus de munitions. Et de l'autre côté, vous avez le président Biden mis sous pression par une partie de son parti, le Parti démocrate,
et de ses électeurs,
qui pousse pour que, en quelque sorte, Israël retienne son bras et aussi que Israël ouvre des points de passage pour l'aide humanitaire, puisque outre l'aspect, ce qui est terrible dans la bande de Gaza aujourd'hui, c'est que effectivement les combats se poursuivent, les bombardements continuent, même si les unités se retirent, les bombardements aériens continuent, et qu'il y a une situation humanitaire, mais absolument catastrophique. Les responsables de l'ONU n'arrivent plus à trouver les mots pour décrire ce qui se passe. Plus d'un million de personnes.
Morts d'après le Hamas.
Il y a aussi des dizaines de milliers de personnes qui sont au bord de la famine. Parce que le territoire est complètement bloqué.
Guillaume Ancel, un mot de la stratégie militaire aujourd'hui d'Israël sur le terrain.
C'est la stratégie de Netanyahou. Et elle est consternante. Justement, tout à l'heure, il disait un pas de la victoire. Mais de quelle victoire on parle ? Il a dit qu'il voulait détruire militairement le Hamas. Le Hamas, c'est une armée, pardon, c'est une organisation terroriste. Elle n'a pas d'armée. Les bataillons que décrivent les Israéliens n'existent pas. Ce sont des ombres. Les Français en ont fait encore une fois l'expérience au Sahel en voulant combattre l'État islamique.
Ils revendiquent 15 000 morts déjà du côté du Hamas dans la bande de Gaza. Ce sont
Pardon, mais d'abord, on ne sait pas les compter. En plus, un milicien, c'est quelqu'un qui a pris une arme à un moment, mais qui est en civil. Donc, c'est quasiment impossible de les compter. Et surtout, depuis 3 mois, il n'y a plus d'État civil qui fonctionne sur la bande de Gaza. Donc on n'est pas à 30 000 morts. Ça me fait rire d'entendre mes détracteurs m'expliquer qu'il faut prendre les chiffres du Hamas alors que c'est une organisation terroriste. Si on regarde la projection par rapport à la puissance des bombardements, à leur fréquence dans un camp de réfugiés, plus la crise humanitaire qui maintenant est avérée, on tourne à 10 000 morts par mois. Ça fait 6 mois. On est sans doute autour de 60 000 morts.
Si on laisse vos estimations.
Ah oui, tout à fait. Mais c'était mon métier avant de faire ces estimations. Non, c'était juste sur la puissance des bombardements. Ça veut dire que si on laisse encore un mois Netanyahou conduire sa victoire, il y aura eu autant de morts sur la bande de Gaza qu'à Hiroshima. Et ça, ça pose une question de la disproportion. L'attaque terroriste du 7 octobre a fait 1 200 morts et à peu près 200 disparus ou otages.
Côté israélien.
Comment est-ce qu'on peut accepter que, en guise de riposte, Netanyahou a dévasté la bande de Gaza et a fait autant de morts côté palestinien, dont il confond allègrement Hamas et Palestiniens ? Il a fait du Hamas le seul interlocuteur et représentant des Palestiniens, alors qu'ils sont plus de 2 millions sur la bande de Gaza.
Tout en précisant par la voix officielle de Tzahal, de l'armée israélienne, qu'effectivement les Palestiniens ne sont absolument pas...
Et en fait, son objectif n'a jamais été ni de libérer les otages, ni de détruire le Hamas. Son objectif, c'est de rendre la bande de Gaza invivable pour les Palestiniens.
Madame Tranui.
J'avais une question, c'est pourquoi le Hamas sous-estimerait les pertes de la bande de Gaza ? Pourquoi est-ce qu'il dirait qu'il n'y a eu que 33 000 morts s'il y en avait eu 60 000 ?
Alors, il faut faire attention à deux choses. D'abord, l'État civil donne aussi un nombre de disparus, qui est de l'ordre de 10 000. Donc déjà, on n'est plus à 32 000, on est plutôt à 41 000, 42 000. Deuxièmement, là, c'est l'État civil. C'est pas tout à fait le Hamas qui communique. Et l'État civil dit, depuis 3 mois, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit sur la bande de Gaza parce que tout ce qui bouge sur la bande de Gaza est immédiatement flingué. Exactement. C'est les morts documentées dont parle l'État civil. Mais quand vous regardez l'ampleur des estimations, cet après-midi, j'étais avec un médecin urgentiste qui est rentré de la bande de Gaza, qui m'a dit, Guillaume, c'est hallucinant. Ça n'est plus qu'un champ de ruines.
En rappelant effectivement qu'il n'y a pas de chiffres officiels hors ceux du Hamas.
Oui, moi je voulais dire que lorsque Benjamin Netanyahu dit qu'il est à un pas de la victoire, ça n'a jamais été aussi faux au niveau international, parce qu'Israël est plus isolé que jamais. Ouais. On est quand même passé d'une séquence où, après l'attaque du 7 octobre, mais il y avait une empathie complète et normale, bien sûr, après un tel attentat terroriste quand même. Rappeler les 1200 civils tués, les 250 otages, tout cela était normal. Il est passé en 6 mois du statut d'agressé au statut d'agresseur. Et ça se voit jusqu'à son premier allié, c'est-à-dire l'allié américain, où on observe quand même une position de plus en plus compliquée à tenir, avec notamment le fait qu'il se soit abstenu au Conseil de sécurité de l'ONU le 25 mars, qui a permis quand même d'adopter la résolution qui exigeait le cessez-le-feu à Gaza. Donc, et aussi le débat que l'on voit aujourd'hui aux États-Unis, qui est passé des campus. Au début, c'était surtout cantonné effectivement aux universités, à l'ensemble de la population, la position de Joe Biden qui est de plus en plus compliquée à tenir, et puis jusqu'à ce débat, on parlait tout à l'heure des livraisons d'armes, aujourd'hui, effectivement, le débat, il porte sur la vente d'armes à Israël.
On continue d'en parler dans un instant, 20h51, l'essentiel, le fil info, Stéphane Milhomme.
Météo France prend les devants dans le Finistère avant l'arrivée demain de la dépression Pierrique. Le département breton va être placé en vigilance orange vague submersion et surtout face au risque de vent violent. Après la découverte de 70 kg de cannabis, de la cocaïne, un lingot, de l'argent chez la mère d'Avalon dans l'Yonne, Jamila Abssaoui et ses deux frères sont en garde à vue ce soir. Ces hommes sont soupçonnés de s'être servis du domicile de l'élu pour stocker la marchandise. L'enquête doit dire si elle était au courant durant 7 gardes à vue au total. Sans l'aide américaine bloquée au Congrès, l'Ukraine perdra la guerre. C'est l'avertissement du président Volodymyr Zelensky. Il espère toujours un vote favorable pour obtenir un financement de 60 milliards de dollars. Son adoption reste suspendue au bon vouloir des élus républicains partisans de Donald Trump. Les rebelles houthis du Yémen revendiquent plusieurs attaques visant notamment un navire britannique et deux Israéliens au large du Yémen. C'est la dernière démonstration de force de ces rebelles soutenus par l'Iran au cœur de la mer Rouge, un secteur stratégique pour le trafic maritime mondial. Et puis Nantes face à Lyon, le coup d'envoi donné il y a 5 minutes pour ce dernier match de la 28e journée de Ligue 1 de football.
France Info.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Les 6 mois aujourd'hui de la guerre entre le Hamas et Israël, quel bilan est-ce que l'on peut finalement en faire, Valérie Lecable ?
Bah, écoutez, le bilan, on en a pas mal parlé jusqu'à maintenant. Il est assez désastreux, ce bilan. Mais ce qui est en train de se passer en ce moment est important parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des émissaires israéliens du Mossad et du Sinn Bet qui sont détachés finalement pour aller discuter au Caire. Mm-hmm. À ma connaissance, c'est
l'Égypte, de l'Égypte et du Qatar.
Voilà. Et c'est, ouais, mais c'est la première fois à ma connaissance que les Israéliens acceptent de discuter en direct et pas par des intermédiaires. Donc, je vais être en cohérence avec ce que je vous avais dit déjà la dernière fois. Ce sont quand même des signes assez positifs d'une possibilité de trêve. Il y a des gens qui parlent de la fin du Ramadan qui est dans quelques jours. Parce que la vérité, en fait, c'est que Netanyahou est tellement sous pression. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Pourquoi est-ce qu'il dit on est proche de la victoire ?
Mais il a dit parce pas que... de cesser le feu sans libération des otages. Voilà. On ne sait pas si c'est de tous les otages.
Alors,
mais...
de tous les otages. Oui, mais ça, le Hamas est prêt à libérer les otages. Le Hamas, ce qu'il veut, c'est un cessez-le-feu. Donc, c'est facile de le dire. Leurs intérêts sont convergents sur ce sujet-là. Mais la chose, c'est de savoir si Israël a gagné ou si Israël a perdu. Moi, je pense que la situation, elle est peut-être un petit peu intermédiaire. En termes d'impression et d'opinion internationale, ils ont perdu, ça c'est sûr, mais ils ont quand même apparemment eu pas mal pas mal de membres du Hamas, qui était quand même leur objectif pour assurer leur sécurité. Mais la question aujourd'hui est de savoir si ces émissaires qui sont en train de discuter au Caire avec le Qatar, etc., vont pouvoir arriver à ce que tout le monde souhaite, c'est cette trêve rapide. Et j'avais prédit qu'on y arriverait la dernière fois que je suis venue, donc ça prend un peu de temps, mais je ne désespère pas que cet optimiste dont je veux... faire preuve et pousser, finissent par arriver.
Comment vous voyez la suite, Jean-Christophe Ploquin ?
Alors, c'est très, évidemment, c'est imprévisible. Il y a un scénario qui est redouté. En fait, ce serait que, mis sous pression pour arrêter la dévastation dans la bande de Gaza, finalement, Benjamin Netanyahou décide d'attaquer au nord et donc d'engager un autre bras de fer, cette fois, avec la milice du Hezbollah. Parce que l'opinion israélienne, visiblement, soutient l'idée d'une offensive d'Israël vers le nord, avec cette menace, en fait, beaucoup plus importante en termes d'armement de ce groupe du Hezbollah au Liban. Donc voilà, c'est un scénario noir.
Ça peut être complémentaire.
Ça peut être complémentaire.
C'est-à-dire
qu'on relâche la pression au sud, mais on attaque au nord. Et ça permet aussi à Benjamin Netanyahou, qui est obsédé par son maintien au pouvoir, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement résilient pour rester au pouvoir, ça lui donnerait encore quelques semaines, quelques mois au sommet.
Valérie Lecable, rapidement.
On n'a pas dit qu'il commence à être très très contesté de l'intérieur aussi.
Ah oui,
bien évidemment, on va en parler rapidement. Guillaume Ancel, juste un mot sur cette hypothèse stratégique et militaire.
Pour moi, c'est ce qui est le plus grave, c'est qu'en fait, Benjamin Netanyahou n'a aucun intérêt à ce que la guerre stoppe. Et comme le Hamas se nourrit de la guerre...
Tant qu'elle continue, il est au pouvoir.
Les deux, en fait, sont très loin, à mon sens, d'un accord... après lequel courent les Américains depuis des mois, comme les Égyptiens, comme les Qataris, comme l'Union européenne. Mais en fait, les deux protagonistes ont tout intérêt à rester dans la guerre parce que Netanyahou, ça lui permet de rester au pouvoir et le Hamas n'existe que tant qu'il y a une guerre.
Oui, quand même conclure sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou est de plus en plus contesté.
On voit les manifestations dans la rue à Jérusalem, très importantes.
Dans la rue, il y a, y compris dans sa garde rapprochée, l'ex-ministre de la Défense, les propos de Benny Gantz, par exemple. On a quand même le sentiment que beaucoup de reproches lui sont faits, y compris sur le fait qu'il y avait des informations avant l'attaque du 7 octobre qu'il n'a pas su prendre en compte. Donc, l'avenir politique de Netanyahou, bien sûr, il est assez nébuleux dans cette séquence, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a une forme d'unité qui reste en Israël par rapport à une guerre qui reste considérée comme existentielle. Parce que c'est aussi ça ce qui se passe, c'est une réponse à ce qu'ils ont considéré comme un nouveau pogrom. Donc il y a une dimension existentielle dans cette guerre qui explique aussi cette forme d'unité nationale qui reste sur la réponse.
Je pense que les 6 mois sans que les otages soient libérés, ça devient quand même très très long pour le peuple israélien. Et ça génère quand même une forte contestation. Et franchement, je pense que Netanyahou, s'il y avait des élections demain, je ne sais pas combien il recueillerait de voix, mais pas énormément, à mon avis.
Oui, on a vu d'ailleurs ces dizaines de milliers de personnes dans les rues de Jérusalem. Au début, c'était surtout les proches et les familles de victimes qui se déplaçaient. Et ça s'est effectivement étendu. C'est Israël, d'ailleurs, qui est en une de la Croix demain matin.
Exactement, on est vraiment sur ce sujet. On a notre envoyée spéciale, Julie Conan, qui raconte la division de la société israélienne. Et effectivement, je voyais deux sondages, 80% des Israéliens souhaitent le départ de Netanyahou, mais 88% soutiennent l'action armée d'Israël aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un paradoxe et ça montre la désorientation d'une société qui, de fait, a le 7 octobre reçu un choc très très puissant.
On en reparlera bien sûr sur France Info. Merci infiniment Jean-Christophe Ploquin d'être venu ce soir, Valérie Lecable, Tam Tranui et Guillaume Ancel. Merci à tous les quatre. Les informés reviennent demain matin. Très bonne soirée.